Des fables de La Fontaine, on retient souvent que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y a une fable qu'on oublie souvent, c'est celle qui s'appelle Simonide, préservée par les dieux. C'est l'histoire d'un poète qui écrit l'éloge d'un athlète et qui est mal payé par ce dernier. Les dieux lui viennent en aide, punissent l'ingrat et préservent donc l'écrivain. Et j'ai envie de dire pour la première fois, Dieu soit loué. D'autant que la question se pose plus que jamais, figurez-vous, comme le rapporte avec minutie depuis quelques jours la rédaction du site littéraire Actualité, le salon du livre de Paris, qui s'ouvre dans quelques jours et dont l'entrée est payante, ne rémunérerait toujours pas les auteurs invités à intervenir. Les auteurs sont en quelque sorte les bénévoles du salon, sous prétexte qu'ils assurent, soi-disant, leur promotion. Alors on pinaille, on fait du cas par cas, on se demande si l'écrivain a vraiment quelque chose à préparer, s'il s'agit d'un vrai travail ou d'un bénéfice pour lui d'une visibilité inespérée, qui vaut bien de ne pas être payé. Soit dit en passant, on parle d'un métier dont la précarité n'est plus à prouver. Quelle était la morale, tiens, de La Fontaine dans cette fable méconnue qu'est Simonide, préservée par les dieux ? Qu'on doit tenir notre art en quelque prix et que les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font grâce.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quel métier est-ce que c'est que d'écrire ? Mon invité d'aujourd'hui a forcément son mot à dire, lui, qui depuis 20 ans consacre sa vie à l'écriture. Pas seulement de romans, pour jeunes et moins jeunes, mais aussi de chansons, de scénarios. Il publie après-demain le troisième volume d'À la place du cœur, sa saga pour jeunes adultes, initiée au lendemain des attentats du novembre 2015. À travers un personnage de jeune écrivain confronté au succès de son premier roman et à ses peines de cœur, il poursuit son exploration d'une génération aussi. Bonjour Arnaud Catherine.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. La rémunération des auteurs d'abord, on n'en entend jamais parler de ça, un peu plus en ce moment.
Un peu plus en ce moment et tant mieux, je vais vous dire. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison que dans cette merveilleuse chaîne du livre, l'auteur soit, comme vous l'avez dit, un bénévole. Vous savez que moi, à côté de mon métier d'écrivain, j'ai un autre très beau métier qui est celui de conseiller littéraire.
Pour les correspondances de Manosque, pour le festival de Nevers.
Pour Tandem, pour les émancipés à Vannes,
pour la maison de la poésie.
Voilà. Et je travaille avec un garçon qui s'appelle Olivier Chaudançon, qui est important dans ce milieu des festivals littéraires. Et il a été à l'initiative d'un réseau, Relief, dont l'un des critères est qu'on doit rémunérer bien sûr les auteurs. Il n'y a aucune raison. Quand vous vous déplacez dans un festival, ce qui est un grand bonheur, hein, ça vous prend une journée et demie. Quand vous vendez, je ne sais pas, 20 livres, ce qui est déjà pas mal, sachant qu'on touche 10% sur un livre. Non mais imaginez comment on vit. Donc il est normal.
C'est une vraie question. La question de la précarité, Arnaud-Catherine, effectivement.
Bien sûr.
Comment font les écrivains pour vivre aujourd'hui ?
Ils ont un métier, généralement ils ont un métier.
Je veux dire un autre métier.
Un autre métier. Et ça peut être très intéressant. Moi j'adore ma vie qui maintenant s'équilibre entre la création d'une part et puis m'occuper des autres, mes exercices d'admiration en tant que programmateur. J'adore ça. Donc je loin de moi l'idée de geindre ou de me lamenter. Mais simplement, quand vous prenez une, deux journées, que vous préparez des choses, que ce soit une lecture, une création inédite, ou que vous réfléchissez pour aller faire une conférence, je ne sais pas où, il est normal que vous soyez rémunéré.
Quand vous avez commencé à écrire il y a 20 ans, vous vous la posiez cette question de la survie en tant qu'auteur, Arnaud Catherine ?
Pas du tout, j'étais dans une inconséquence. J'étais émerveillé par l'idée d'avoir publié un livre. Je me cherchais un métier. Alors j'ai travaillé longtemps à France Culture, ça a été merveilleux ça. Ça a été mon premier métier. Mais non, je découvrais. Et à l'époque d'ailleurs, on était des corps sans voix, derrière des tables, à signer ou non des livres. On était dans un paysage événementiel où il y avait des salons du livre. Et puis, notamment avec les correspondances de Manosque, les festivals sont apparus. Mais alors là, c'est une toute autre nature d'événement qui est apparu. C'est les auteurs en scène, c'est les auteurs qui préparent des spectacles, c'est les auteurs qui dialoguent entre eux.
Qui sont mis à contribution, en fait.
Exactement, exactement. Donc c'est de la création, c'est de l'actif, c'est pas être derrière une table et ne faire que signer.
Ça a pas mal changé, vous voulez dire par là ?
Complètement, et maintenant il y a des festivals mais tellement beaux, Escale du Livre, le Printemps du Livre à Grenoble, donc Bordeaux, il y a énormément de festivals de création.
Alors c'est intéressant la question qu'on se pose quand on sort un premier roman, j'ai envie de vous répondre, tout dépend du roman, parce que dans À la place du cœur, votre jeune héros, Côme, sort un premier livre qui est un succès. Quelle raison est-ce que vous imaginez à ce succès, d'ailleurs, le succès de votre personnage ? À quoi ça tient ?
C'est la petite mythologie radiquée, peut-être. C'est quelque chose que j'ai vu se faire chez des gens qui sont devenus d'ailleurs des amis. Moi, je me souviens, voilà, j'ai publié mon premier livre en 98.
Les yeux secs.
Les yeux secs et mes deux modèles, c'était Marie Darrieussecq et Virginie Despentes, qui sont deux femmes que j'admire infiniment. Et je les ai vus avoir un succès phénoménal l'une et l'autre.
Alors la mythologie radicale que vous citiez, c'est celle du jeune écrivain, très jeune écrivain.
Ouais, mais du coup, je voulais prendre des exemples un petit peu plus contemporains, du coup. Et non, mais ce qui m'a étonné, c'est que elles ont eu un énorme succès avec Étruisme et Baise-moi. Mais le deuxième livre, ça a été très difficile. D'abord parce que ce sont des femmes qui ont eu du succès, donc il y a eu un retour de bâton. Hein. Notre triste pays là-dessus est... Et voilà, j'espère que ça va changer. Mais et donc c'est un truc que j'ai pas tellement envié. Voilà, je voulais en arriver là. Ce sont des livres que j'ai adorés, ce sont des romancières que j'adore, mais je me suis toujours dit, j'adore le trajet que j'ai eu, c'est-à-dire lentement mais sûrement, très protégé par mes éditeurs.
Oui.
Bernard Wallet à l'époque, qui me disait là tu vas. Tu vas en bibliothèque et en librairie parce que c'est un réseau qui est hyper important et qui fait un boulot formidable. Donc tu ne te laisses pas non plus leurrer par uniquement le chant des sirènes, etc. J'ai été éduqué. Vraiment, c'était une éducation.
Et puis il y a ce que dit le texte aussi, Arnaud Catherine, la façon dont il résonne avec le monde, ce qui revient souvent dans votre livre et pour votre personnage qui écrit un livre, dans les critiques que vous inventez, avec la distance aussi qui est la vôtre, c'est qu'il a écrit un roman générationnel. Mmh. De quelle génération est-ce qu'on parle là, en l'occurrence ?
On parle de la génération à qui je m'adresse au premier chef avec cette série. Vous l'avez rappelé, il y a eu les attentats, il y a eu cette année de 2015, où je me suis senti très stérile d'un point de vue littéraire. Enfin, j'ai quand même écrit Frère Animal, qui était un projet avec Florent Marché, un projet très important et ancré dans un réel. Mais moi, à titre personnel, sur un projet personnel, j'arrivais plus à redémarrer. Et c'est d'ailleurs Virginie Despentes qui a une responsabilité dans La Place du Cœur, puisqu'un jour, elle m'a dit, elle-même était un petit peu... Elle était un petit peu coincée, je crois, sur son Vernon Subutex 3. Et elle m'a dit, tu verras, on arrivera à redémarrer le jour où on aura trouvé comment entériner dans notre projet, prendre acte de ce qui s'est passé en 2015. Pas forcément écrire sur, mais faire entrer l'horreur dans nos livres. Et c'est ce qui s'est passé un jour de décembre 2015. Je me suis dit, tiens, à La Place du Cœur, l'idée est venue. Et je me suis dit, je veux écrire pour cette génération qui est convoquée par l'histoire, là. C'est quelque chose que j'ai pu constater autour de moi, ces gens de 20 ans, ils entrent vraiment dans l'histoire en 2015. Moi, notre génération à nous, enfin, j'ai l'impression que j'ai été convoqué par l'histoire en 2002, moi, hein, avec Le Pen au second tour. C'est là que je me suis dit, c'est là que je suis descendu dans la rue.
En 2001, je me suis dit, aussi, peut-être avec l'âge du détour jumel.
Oui, enfin, dans cette période-là, en tout cas. Et là, j'ai l'impression, et c'est une épreuve, c'est âpre, douloureux, que la génération des 20 ans entre et convoqué par l'histoire en 2015. Et donc c'est à eux que je voulais m'adresser. Et pour répondre enfin à votre question, cette génération, c'est celle-là.
Mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre génération ? Soit vous foncez tête baissée dans la course au fric, soit vous décrétez que vous n'arriverez à rien avant même d'avoir entrepris quoi que ce soit. C'est ce que le grand frère de votre héros dit à un moment donné. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous ?
Ça, c'était un petit peu aussi ce qu'on ressentait, nous, en arrivant sur ce qu'on appelle poétiquement le marché du travail. On nous disait déjà que tout était bouché et on avait tendance à avoir les bras ballants. Com a une chance extraordinaire. Si je le mets en scène dans ce succès phénoménal que moi, j'ai pas vécu et que j'aurais pas aimé vivre à son âge, en tout cas, il a une chance extraordinaire. Il vient de trouver un début de destin, c'est ce que dit Esther, c'est-à-dire l'écriture, une vocation. Et ce qui me frappe beaucoup dans les ados que j'ai autour de moi, c'est que j'en vois beaucoup qui peinent vraiment, et c'est pas un jugement que je porte là, mais j'en vois beaucoup qui sont paumés avec un champ de possibles paralysant et qui tardent ou qui ne trouvent pas de vocation, et c'est peut-être parce que le monde leur renvoie des possibilités qui sont parfois pas très
précisément
enviables.
Arnaud Carine, comment on fait pour parler aux jeunes adultes, qui est une question que vous devez vous poser sans cesse,
ouais,
en tant qu'écrivain?
Oui, c'est une question d'écriture. C'est une question de conscience, en fait. Là, vous remarquerez, c'est pas un livre pour enfants, hein, loin de là. C'est un livre vraiment pour jeunes adultes. Et puis moi, je le constate dans les salons, c'est un public de 16 ans à 35 ans, et puis jusqu'à vous. Mais comment je fais? Je me mets dans la... J'essaye de faire naître un personnage qui me ressemble, déjà, suffisamment, pour que ça puisse sonner un tout petit peu juste. Et je me mets à hauteur de conscience de ce garçon de 18-20 ans. Je trouve que je me souviens assez bien de l'ado et du jeune adulte que j'étais.
Vous regrettez cette période?
Pas du tout. C'était très beau, parce que c'était extrêmement intense. Tout était branché très fort. Les amitiés, les amours, mes études, j'ai adoré. Donc c'était très intense et j'ai adoré ça. Mais j'étais très névrosé, très mal dans ma peau. Je le savais pas totalement. Et je suis très heureux d'être dans la quarantaine parce que je ne suis pas sauvé, je ne suis pas un être sain. Mais j'ai beaucoup travaillé, et artistiquement et analytiquement, et je me sens tellement mieux.
C'est intéressant que vous parliez de névrose, hein, parce qu'on arrive à un point fatidique dans cette émission, celle qui est tout entière dans la névrose. Je pense que vous la connaissez, Arnaud, c'est la culture. Et son actualité névrosée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 6 mars?
Nous avons vu ce sphinx plein de fois en photo. Mais comme le dit un proverbe persan, il vaut mieux voir une seule fois qu'entendre 100 fois. Nous remercions le Louvre et la France de nous faire confiance.
Voir le Louvre, c'est enfin possible en Iran. Le Musée national d'Iran à Téhéran ouvre aujourd'hui les portes d'une exposition inédite faite d'œuvres prêtées par le Louvre, une grande première dans l'histoire des relations franco-iraniennes. L'institution parisienne a mis à disposition pour l'occasion près d'une cinquantaine de ses trésors, dont un sphinx égyptien de 2400 ans, un buste de l'empereur romain Marc Aurèle et un dessin de Rembrandt.
Le cinéma, c'est pas un art de maîtrise, mais c'est un art du miracle. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est de l'ordre du miracle.
Il est parti, Labarthe, critique, cinéaste, producteur et figure de la cinéphilie française. Andreas Labarthe s'est éteint hier à Paris, il avait 86 ans, compagnon de route des cahiers du cinéma, époque Truffaut, Godard, Rivette, réalisateur d'une quarantaine de films et même scénariste de films pornographiques. L'homme au Borsalino restera l'auteur de la série documentaire culte Les cinéastes de notre temps.
Je n'existe pas, j'existe. Je suis la harde sur le dos de l'ombre. Je suis l'ombre dans le pli des obscurs.
Le tarmac vibre au rythme des traversées. Dès aujourd'hui et jusqu'au 13 avril, le théâtre parisien du tarmac accueille les traversées africaines, festival pluridisciplinaire pensé comme une invitation à jouer à saut de frontière. Au programme 8 spectacles, des rencontres, des expos et un focus sur la performance. On y va notamment pour voir la pièce de Bernard Magnier et Hassan Kassi Kouyaté, Le fabuleux destin d'Amadou Ampateba, ou le show African Man original du danseur et acrobate Koudous Onikekou.
Vous aimez les livres, le débat? Tentez votre chance pour faire partie du jury du Livre Inter. Vous avez jusqu'au 13 mars inclus, mais ne tardez pas.
On ne tarde pas à s'inscrire pour participer au Livre Inter 2018. Il reste exactement une semaine pour essayer d'intégrer le jury présidé par la romancière franco-marocaine et lauréate du concours 2016, Leïla Slimani. Pour cela, c'est toujours très simple. Il suffit de candidater sur le site franceinter.fr avant mardi prochain. 100% des gagnants ont tenté leur chance. À qui le tour? La truculente Eva Béton vous attend. Et l'auteur Arnaud Catherine, invité de Boomerang ce matin pour le troisième tome que vous appelez saison 3 de À la place du cœur, un livre qui est parcouru d'images et de photographies. C'est assez intéressant, on y voit des plages de sable blanc, un panneau de signalétique indiquant Arcachon, ou encore une forêt de pins. Pourquoi avoir choisi de faire rentrer des images dans ce livre, Arnaud?
Parce que c'est un peu nos vies. Avant, je prenais pas du tout de photos et je ne suis pas doué pour cela. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, y a une part de soi qu'on expose comme ça, en prenant des photos.
Vous voulez dire que ça joue maintenant, désormais, dans votre processus de création aussi?
Ah bah oui, la preuve en est, ces photos sont entrées dans le livre. J'aurais jamais juré publier un livre avec des photos. Mais je crois que voilà, ce qu'on expose de soi sur les réseaux sociaux passe maintenant beaucoup, beaucoup par l'image. Mais il y a des gens dont on découvre en les suivant tous les jours qui sont doués. Vincent Delerme, par exemple, tous les jours, il publie des photos qui sont absolument magnifiques.
Vous voulez dire sur son Instagram?
Ouais, sur son Instagram. Et moi, il me plaît tous les jours de découvrir une nouvelle photo de Delerme. Donc voilà, c'est rentré dans nos habitudes. Et alors, pour cette génération dont il est question, encore plus. Donc, il y a des choses que Côme fait passer dans ce livre par la photo, par l'image. Et moi, j'aime bien, puisque je suis écrivain, pouvoir parfois me passer un peu des mots.
Oui. Il y a une photo qui m'a interpellé, moi. C'est celle d'une biche qui flotte dans l'eau d'une piscine.
Bah oui, c'est une vraie photo. Ça, c'est cet été. Hein. On a trouvé une biche morte dans la piscine. Et Et j'ai eu un peu honte, mais je l'ai photographié. Tiens, est-ce qu'il y a 10 ans, sans les réseaux sociaux, sans Instagram, j'aurais eu ce réflexe-là? Mais là, je l'ai photographié, et le pire, c'est que la photo était assez belle. Je l'ai tout de suite envoyée à Sophie Kahl, parce que je me disais qu'elle, ça allait lui plaire, ça. Et effectivement.
Ça lui a plu?
Ouais. Elle aurait aimé être là, m'a-t-elle dit.
Oui, ça c'est bizarre. Je vous parle d'image, Arnaud Catherine. C'est pas non plus par hasard. Il se trouve que vous écrivez aussi pour le cinéma. Vous étiez au César vendredi dernier pour Carré 35, ce si beau film d'Éric Caravaca que vous avez co-écrit. Qu'est-ce qui, dans un projet comme celui-là, vous a tout de suite interpellé?
Ah, que j'avais jamais fait ça. J'avais écrit 2 films avec Éric. C'est vraiment un frère d'écriture. Et puis là, un jour, il m'a appelé en me disant qu'il avait découvert quelque chose sur sa famille et qu'il voulait que je l'accompagne et dans l'enquête et dans l'écriture d'un film qui serait donc autobiographique.
C'est intéressant que vous disiez frère d'écriture. Parce qu'en l'occurrence, effectivement, il y a des points communs, il y a des points d'accroche.
J'ai 2 frères, j'ai Caravaca et Florent Marché. Et effectivement, il faut qu'il y ait un miroir sur le visage de l'autre. Il faut qu'on se retrouve en filigrane dans l'autre pour écrire ensemble. Mais là, ce que j'avais jamais fait, c'est le plein courage, la pleine audace, le plein péril de l'autobiographie. Et puis voilà, Éric me proposait d'être cet ami accompagnant. Donc je ne pouvais pas refuser, et c'était une aventure très troublante, très remuante.
Et c'est intéressant parce que votre œuvre en même temps est traversée par la question de l'intime, Arnaud, sans pour autant que vous ne parliez jamais de vous, comme si vous avanciez effectivement toujours masqué.
Le masque est de plus en plus mince, je crois que ça c'est l'expérience de la scène. Depuis que j'ai participé à des pièces de théâtre et à ces spectacles musicaux avec Florent, d'exposer son corps, de le mettre en joue, même si c'est pour le meilleur, fait qu'on ne revient pas à l'écriture de la même façon. Il y a des décors de carton-pâte que je ne peux plus supporter. Donc, Côme me ressemble comme il ne m'aurait jamais ressemblé il y a 10 ans. Esther me ressemble. Enfin, voilà, le masque ne va peut-être pas disparaître totalement, parce que c'est très agréable de porter un masque, et puis ça déploie l'imaginaire aussi, et voilà.
Ça a quelque chose à voir avec l'époque aussi, parce que, dites-moi si je me trompe, et votre héros, Côme, que vous citez, il a écrit dans À la place du cœur un livre sans pudeur, un livre où il expose ses proches au point de s'attirer les foudres de certains. Est-ce que notre époque manquerait de pudeur, Arnaud?
Alors, je lui fais faire ce que moi je fais pas. L'écriture, ce sont des passages à l'acte. Ça m'amuse, en fait, de mettre en scène, c'est pas la première fois, des figures d'écrivains qui font vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils disent tout, qu'ils foutent le bordel dans leur vie et qu'ils prennent en otage des gens. Voilà. Mais c'est parce que moi, je m'interdis de le faire. Donc, c'est mon passage à l'acte à moi, c'est mon espace fantasmatique. Après, oui, notre époque, bien sûr, elle s'expose parfois de façon embarrassante, parfois pour le meilleur. On parlait des belles photos de Vincent Delerme, et parfois c'est très embarrassant. Et dans ces cas-là, je vais toujours relire Sagan, et je vais relire, réentendre éternellement ces archives où on l'entend esquiver, botter en touche, dire que le secret c'est une très belle chose, etc., etc. Dire que non, elle n'est pas pudique, c'est l'époque qui est très impudique, etc., etc. Notre époque manque un tout petit peu de décence, ouais.
En particulier, peut-être, à l'adolescence, et dans, pour ces jeunes adultes que vous décrivez dans votre texte. Moi, j'ai envie qu'on l'entende, ce bel âge, tel que le chantait Barbara, tiens. Ah. En 1964, vous êtes sur France Inter avec Arnaud Catherine. Vous écoutez Boomerang.
Il avait presque 20 ans, fallait voir. Sa gueule, c'était bouleversant. Fallait voir pour croire. À l'abri du grand soleil, je l'avais pas vu venir. Ce gosse, c'était une merveille de la voir sourire. Voilà que timidement le Jésus me parle de tout, de rien, de ce moment. Tu parles, tu parles. J'aime beaucoup les enfants, j'ai l'esprit de famille, mais j'ai dépassé le temps de jouer aux billes. Il avait presque 20 ans et la peau si douce. J'ai cueilli du bout des dents la fleur verre de sa bouche et j'ai feuilleté pour lui un livre d'images qui était pas du tout écrit pour les enfants sages. 30 jours et tant de nuits donne, mais je te donne lui pour moi et moi pour lui, et nous pour personne. Mais il fallait bien qu'un jour je perde mes charmes devant son premier amour. J'ai posé les armes. Elle avait presque 20 ans. Fallait voir sa gueule, c'était bouleversant. Fallait voir pour croire. Ils avaient tout de 20 ans, 20 ans, la belle ange.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est vrai qu'il a l'air d'avoir 20 ans à peine, hein, un peu plus. Et on pourrait penser qu'il vient d'avoir 18 ans, beau comme un enfant, fort comme un homme, très fin, regard ardent, dégingandé, désinvolte façon Tadzio dans Mort à Venise, ordant les cheveux noirs sur les yeux, sale ferrure. Vous connaissez la chanson évidemment. Tout en noir ce matin, Arnaud Catherine, invité de Boomerang pour la 3e saison, comme on dit, pour un roman pour jeunes adultes, d'À la place du cœur, un roman qui témoigne, à mon sens, de votre curiosité, Arnaud, de la façon dont vous avez sans cesse de regarder vers les autres. Comment on fait pour continuer à se regarder dans un monde saturé par les écrans, un monde où on se parle par message, ce monde que vous décrivez dans La place du cœur?
Ben justement, la littérature, c'est-à-dire que la littérature, c'est un espace où on peut se permettre de prendre du temps. Il y a la radio aussi, et moi je vis avec la radio, mais on peut se permettre de forer un peu plus loin, on peut s'attarder, on peut perdre son temps. Voilà, on n'est pas dans l'instantané. C'est très sommaire et banal ce que je vous dis, mais c'est quand même un espace précieux, rare, et qu'il faut chérir.
Mais est-ce que ça s'apprend, ça, regarder les autres, pour vous?
Ouais, c'est l'histoire de toute une vie, vraisemblablement. C'est-à-dire, d'abord, il faut apprendre à cesser d'être toujours sur soi. Et pour ça, il faut être désencombré de certaines plaies. On parlait de névrose tout à l'heure. Donc, il faut être un peu en paix avec soi. Et là, on peut se tourner vers l'autre et découvrir que le plus intéressant est là.
On en revient au début de l'émission, parce qu'effectivement, vous ne cessez d'aller vers les autres, pas seulement à travers vos livres, mais aussi à travers la manière dont vous vous engagez à défendre des textes sur scène, lors notamment de festivals, de lectures musicales. Pourquoi est-ce que la littérature, c'est aussi quelque chose qui s'écoute, qui s'entend?
On avait oublié que les écrivains avaient un corps et une voix. Il y a pourtant toute une tradition en littérature française et pas exclusivement. Voilà, je disais tout à l'heure, on était des gens derrière des tables à attendre un lecteur. Mais en fait, non. Les outils qui montaient sur les tables pour déclamer des poèmes. Voilà, on a une voix et un corps, on le redécouvre. Et moi, je trouve ça très exaltant de faire exister enfin mon corps et ma voix. Voilà, ça fait partie de l'art littéraire, je trouve.
C'est même son origine, effectivement.
Et c'est même son origine, vous avez tout dit. Donc, du coup, le corps ne peut pas ne pas faire partie de cela, quoi.
J'ai envie que vous nous fassiez entendre quelque chose. Vous êtes venu avec un texte, Arnaud, un texte inédit, qui est un extrait de votre prochain roman qui sera publié chez Vertical. On vous écoute?
C'est un extrait de mon journal, en fait. Je ne peux jamais être certain qu'elle sera là. Il n'empêche, c'est toujours à elle que je viens lorsqu'elle est en caisse. Impossible d'anticiper son humeur, qu'elle peut avoir très fâchée. Elle est la seule à afficher un panneau indiquant qu'elle ne prend pas les espèces. Et elle enfonce le clou en répétant toutes les 5 minutes aux clients qui font la queue, pas d'espèces, uniquement chèque et carte. Je me demande souvent pourquoi. Ça tombe toujours sur elle, jamais sur une autre employée, je n'ai pas d'explication. Elle est très grosse, elle se rase, certains jours elle oublie. Teinture approximative sur une chevelure fine et clairsemée, elle a renoncé. Je trouve que c'est une chose assez triste. Les gens qui abdiquent et vont au plus pratique, les cheveux courts qu'on n'a pas à coiffer, au plus confortable, ce vieux legging qui la boudine. Les mauvais jours, elle passe les articles au scanner sans un mot, elle ne prend pas la peine d'annoncer le total, elle patiente, le regard dans le vide. Elle finit par apercevoir les cartes bancaires que vous brandissez, elle appuie alors sur le bouton CB de son clavier. Elle vous tend le ticket d'un geste là. Et puis, il y a les jours meilleurs. Elle est affable, en verve. Elle évoque ses ennuis de santé, le dos. Ce qu'elle préfère, c'est commenter votre panier. Or là, on range sa pudeur. Ça, non, il n'y a pas droit. Mauvais pour son cholestérol. Ça, bah tiens, elle connaissait pas, elle essaiera. Son péché mignon, ceux à la mangue, avec la crème au-dessus, vous voyez? Il s'agit d'opiner. Quand elle voit passer une boîte de préservatifs, elle dit rien. Bien sûr, les clients dans la file s'impatientent, nous sommes à Paris. De sa chaussure en daim, le jeune homme devant moi tape un coup sec sur la rambarde. Il porte un jean qui descend jusqu'à mi-fesse et laisse apercevoir un caleçon d'enfant bleu marine avec des ours blancs. Peau assez pâle, tache de rousseur, beau mec. L'exaspération monte. Et je me surprends à faire comme la caissière, tiens. Je détaille le contenu de ses courses. Ce pourrait être attendrissant. Cornflakes, lait, pain de mie, jus d'orange, pâte, sauce bolognaise en bocal, un pack de bière, baguette industrielle. Eh ben oui, l'étudiant n'a pas quitté son foyer depuis très longtemps, alors il va au plus élémentaire. Il vit dans un studio, de quoi loger un lit, une table en demi-lune et deux chaises. Ce qu'il aime, c'est recevoir ses amis de la fac, mettre la musique à fond et fumer toute la soirée. Il mange quand il y pense. En attendant, il n'a aucune curiosité ni indulgence pour notre caissière qui ne prend pas les espèces. Vient enfin son tour, il enfourne mécaniquement les produits dans son sac à dos, le pack de bière il le prendra à la main. La caissière ne fait aucun commentaire, tout ça ne l'inspire pas du tout. Deux mondes qui ne se rencontreront jamais, sinon furtivement, dans ce supermarché. Le garçon paye, quand elle lui tend son ticket, il le saisit d'une main supérieure et il disparaît. Minable petit con. Je tends ma carte du magasin. Je me dis que la caissière pourrait me reconnaître depuis le temps. Mais elle lance d'une voix stridente et sans me regarder. Pas d'espèce.
Ce texte, Arnaud Catherine, c'est l'un des premiers de votre nouveau livre qui s'appellera Journal d'un voleur, qui sera publié aux éditions Verticales. On le disait, il y a un clin d'œil à Jean Genet, Journal d'un voleur. En quoi l'écrivain est-il un voleur pour vous?
Moi, je ne le suis plus que jamais en ce moment. Enfin, c'est un vice que j'ai depuis quelques temps. J'ai toujours un cahier Moleskine et je croque des gens. Moi, plutôt que croquer, qui est un mot que j'aime pas, je dis je les vole. Et en fait, je les invente. Je les invente. Donc oui, on est des voleurs parce qu'on trouve la matière à nos fictions, c'est-à-dire à nos délires. On trouve matière à fiction dans la vie. Parfois, d'ailleurs, on doit renoncer à certaines choses que la vie nous tend parce que ce serait invraisemblable dans l'espace d'un livre.
Ça veut dire qu'il faut se méfier des auteurs tout le temps?
Tout le temps.
De cet entretien.
Mais sachez aussi qu'il y a des voleurs qui sont respectueux de vous et qui sauront vous emmener dans leur livre en vous masquant pour pas que vous ne soyez embarrassé.
Mais de cet entretien ce matin, qu'est-ce que vous allez voler vous?
Vous verrez.
Sûr? Dites-moi que vous parlerez de Boomerang.
Le livre Journal d'un voleur s'ouvrira non pas sur une citation d'Exergue, mais sur peut-être toi.
Est-ce qu'on peut croire aux promesses d'un écrivain de toute façon?
Moi, oui, bien sûr.
Merci, Arnaud Catherine, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que le troisième volet de À la place du cœur sort après-demain aux éditions Robert Laffont. Je précise aussi que vous participerez au festival Les Émancipés à Vannes avec Florent Marché et Vincent Dedienne, notamment, avec qui vous avez mis en scène une lecture de Fou de Vincent d'Hervé Guibert. Merci d'avoir été là.